En tout cas, bonsoir à tous. J'ai vraiment un grand plaisir à vous accueillir, à accueillir mon évêque dans notre diocèse, mais également à recevoir Philippe Houssiot, qui est donc une personnalité reconnue dans le mouvement sportif. Et donc, alors j'allais dire un athlète, on reste toujours un peu athlète, hein, je vais dire ancien athlète olympique. Et donc, elle fait partie de l'équipe de Belgique pour la délégation belge en athlétisme, en sprint et en saut en longueur. En tous les cas, donc, ça nous ramène aux Jeux Olympiques de Mexico, c'est en 1968. Au-delà de ça, et au-delà de sa carrière d'athlète, il y a un engagement qui va se poursuivre dans le domaine du sport, même si préalablement, Monsieur Ouzou va devenir docteur en droit, ce qui va l'empêcher de participer aux Jeux Olympiques de 72 à Munich, tout simplement parce que entre les Jeux Olympiques et puis les examens, eh bien, les dates se percutaient et il n'y a pas eu moyen de déplacer les temps d'examen, que ce soit du côté du comité olympique ou de l'université. Et donc, voilà un tout petit peu la difficulté qu'on pouvait vivre sur cette période. Au-delà de ça, donc, Monsieur Ossio a pris la présidence de sa fédération d'athlétisme en Belgique, mais également était vice-président du comité national olympique. Et donc, toujours dans le mouvement olympique, il a également été un expert, notamment dans l'approche des villes olympiques qui portaient cette candidature pour pouvoir accueillir les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, je le reçois dans une dimension qui est un peu, alors pas décalée du tout, mais en tous les cas qui correspond à ce qu'on s'est dit ce matin et cet après-midi notamment sur l'impression qu'on a pu avoir quand on est au village olympique. Alors je ne sais pas si on peut dire que le point d'entrée c'est le sport, la fraternité, l'outil qu'on va aborder et qui nous permet d'aller vers quelque chose qui est très cher aujourd'hui, qui est la paix. Est-ce que le sport est un outil de paix? Est-ce que c'est le seul outil de paix? Enfin, en tous les cas, Monsieur Philippe Houssiot a mis en place une initiative en Belgique qu'il va vous présenter en souhaitant que cette initiative puisse faire des petits et peut-être même s'implanter sur notre territoire. On en discutera de toute façon tout à l'heure. Voilà. Donc, je laisse la parole à Monsieur Houssiot et je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Monseigneur, Mesdames, Messieurs, j'ai l'habitude d'être debout. Je préfère, je crois que c'est meilleur également pour le flot de parole, si vous voulez. Alors, le thème de cette présentation, c'est effectivement le sport et l'esprit d'humanité. Ce projet-là que nous avons abordé lorsque, en Belgique, on est en même temps à côté des fonctions qu'on m'a prêtées. J'étais également président du Panathlon, qui est une association internationale qui s'occupe de la défense des valeurs du sport dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la citoyenneté et forcément dans le domaine du sport. Et depuis peu, maintenant, je le mène au niveau européen, puisque j'ai également la présidence du mouvement européen pour le fair play. Et je pense que la raison pour laquelle ce projet est né, le sport et l'esprit de l'humanité. Je voudrais faire en sorte que nous passions à travers le cheminement qui nous a amené finalement à deux documents que vous recevrez tout à l'heure, une déclaration et les minutes d'un congrès européen que nous avons amené en Belgique autour de cette même notion. Et vous l'avez vu, c'est entre le sport, l'esprit de l'humanité, et le sport concilium, qui est en fait devenu l'organe, je dirais, de suivi du projet dont je voudrais vous parler ce soir. Alors, dans tout projet, il y a d'abord une histoire à caractère un peu personnel, et elle part de deux éléments, de deux faits identiques. On a eu la gentillesse de rappeler que j'étais beaucoup, toujours impliqué par le mouvement international olympique. Ce que l'on ne sait bien sûr jamais, c'est effectivement quand dans les Jeux, les athlètes qui sont sélectionnés ne vont pas aux Jeux. Et curieusement, il y avait malheureusement à l'époque de 2016, les Jeux de Rio, il y avait une tendance, c'est que énormément d'athlètes, je parle d'une quarantaine d'athlètes, partout dans le monde, avaient finalement renoncé à leur sélection. Et Dieu sait si une sélection aux Jeux Olympiques est quelque chose d'important dans la vie d'un athlète, avaient renoncé parce qu'ils étaient en confrontation philosophique avec ou le mouvement ou le danger qu'ils voyaient à devoir parfois affronter certains athlètes d'une autre obédience ou d'une autre religion. Je ne ferai pas, bien entendu, de cas particulier, mais d'autres images vous viendront certainement à l'esprit. Donc, ce premier élément était très flagrant pour ceux qui étaient impliqués, qui connaissaient bien, si j'ose dire, le château de Vidy et le cœur du mouvement olympique. Et la deuxième chose était que pendant ce temps-là, nous menions, toujours en Belgique, un projet qui s'appelait, un festival du film sportif qui s'appelait L'Esprit d'Humanité, le sport L'Esprit d'Humanité, dans lequel nous avons projeté notamment les chariots de feu. Alors je ne sais si certains d'entre vous ont vu ce fameux film Les chariots de feu, mais les chariots de feu ont une particularité, c'est notamment toute l'histoire de Eric Liddell. Eric Liddell qui va finalement devenir pasteur protestant. Mais Eric Liddell est sélectionné par la délégation britannique pour participer aux Jeux. À l'époque, c'était les Jeux de 1924 à Paris. Il monte sur le bateau et en montant sur le bateau, un journaliste l'interpelle. Il lui signale que ces séries de 100 mètres viennent d'être annoncées et que ces séries de 100 mètres auront lieu le dimanche, qui est un jour pour lequel il ne voulait pas, sa religion ne lui permettait pas de participer à l'épreuve sportive. Et donc il est sur le bateau qu'il amène à Paris, et via le Havre, je vous rassure, et il se retrouve sur le bateau, et le comité olympique britannique décide de se réunir pour voir ce que l'on va faire de cet athlète exceptionnel, et il constate effectivement qu'il est également bon en 200 mètres et en 400 mètres. Finalement, le 200 mètres, malheureusement, il y a trop d'athlètes britanniques qui sont déjà sélectionnés, et on le sélectionne pour le 400 mètres. À cette époque-là, on pouvait encore finalement changer de délégation. Et Eric Liddell va participer aux 400 mètres, dont les séries et la finale vont se dérouler pendant la semaine, et va devenir champion olympique du 400 mètres. Et c'est en fait son histoire qui est racontée dans les chariots de feu, en même temps bien sûr que celle de Abrahams, qui va gagner le 100 mètres, et qui va faire de ce film aussi un film tout à fait bouleversant. Et en partant de là, je me suis dit, et cette fois-ci, ce n'est pas une question de modestie, je me dis, pourquoi, comment est-ce que chacune des religions dans notre pays, et là, ça mérite une deuxième petite assise, en Belgique, il y a, les cultes sont reconnus et sont subsidiés, et il y a 8 cultes qui sont reconnus et subsidiés, dont la laïcité, et après toute une étude, bien évidemment, autour de leur capacité, autour de l'organisation de leur mouvement. Et ces 8 cultes sont reconnus par le ministère de la Justice, qui est chargé de vérifier qu'ils sont toujours bien dans l'esprit du projet. Je vous les cite parce que, comme je préfère vous lire quels étaient et quels sont ces cultes, parce que nous avons mis beaucoup de doigté à le rappeler, c'était la Conférence épiscopale de Belgique, le Conseil du culte protestant évangélique, le Consistoire central israélite de Belgique, le comité central du culte anglican en Belgique, l'église orthodoxe en Belgique, le centre d'action laïque, l'union bouddhique belge, l'exécutif des musulmans Belgique. Et autour de ça, nous avions absolument voulu que soit réuni l'ensemble du monde du sport. Le comité olympique, bien entendu, mais également les interfédérales du sport et le mouvement panathlonien dont je vous ai parlé, qui développe les projets autour d'éthique dans le sport. Et effectivement, nous avons eu cette audace de les contacter avec un objectif, c'était de voir dans quelle mesure il y avait, ou il pouvait y avoir, une symbiose, j'allais dire, dans ce lieu, une communion entre toutes ces différentes religions pour arriver à ce qu'à un moment donné, il y ait le même type de rapport au sport et que surtout, l'on puisse se dire, et c'était la phrase un peu mythique que nous avions utilisée, c'est que les valeurs philosophiques restait dans les couloirs des vestiaires, ne rentrait pas dans le vestiaire et n'était pas présent sur le terrain. Donc en fait, c'était ça l'objectif, de vérifier qu'à un moment donné, on pouvait faire, entre guillemets, fi de, non pas de sa culture philosophique personnelle, mais qu'elle ne sortait pas, ne se présentait pas lorsque l'on participait à l'épreuve sportive. Donc nous avons réuni l'ensemble de ces acteurs lors de sessions de travail, où chaque fois, bien entendu, ce n'est pas à vous de dire de l'important des symboliques, nous avons tenu à le faire chaque fois, soit dans un Parlement, soit au Sénat, parce que nous considérions qu'il fallait que clairement les engagements se fassent aussi dans des lieux de législation, dans des lieux où on pouvait après ça faire en sorte que le projet porte tout à fait toutes ses dimensions. Et c'est ainsi que, pour la première fois, après de nombreux mois, nous avons pu réunir le 6 octobre 2016, c'est-à-dire dans la foulée des Jeux de Rio, nous avons pu effectivement réunir, dans une photo qui était à l'époque très symbolique, où étaient côte à côte les représentants de toutes les religions du mouvement sportif dont je vous ai parlé il y a un instant. Et puis, nous avons pris le temps du travail, et ce travail était donc cette volonté d'aller plus loin et de faire en sorte que nous aboutissions à un texte commun que nous avions l'intention d'appeler « Le sport, l'esprit de l'humanité ». Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que nous avons fait, c'est de faire en sorte que, quand nous avons terminé nos travaux, nous le fassions solennellement dans la maison des parlementaires, c'est-à-dire le lieu où se croisent en Belgique les sénateurs et les députés, qui est un endroit unique en son genre, en tout cas en Belgique, et qui a l'avantage, c'est que justement, nous pouvions toucher et les sénateurs et les députés de toutes les factions politiques, des majorités gouvernementales ou pas. Et ce donc en présence de la présidente du Sénat de Belgique. Ça, c'est donc cette fameuse journée du 31. Et le 31, qu'est-ce que nous avons effectivement évoqué? Et je vais vous lire le document parce que c'est le document qui nous réunit aujourd'hui. Partant du précepte que le sport est un vecteur d'épanouissement individuel dans la société, qu'il participe au développement du corps et de l'esprit, qu'il favorise l'ouverture, le mélange et les relations sociales entre individus, sachant que chaque être humain est complexe et multiple, riche de toutes ses expériences de vie, de ses convictions philosophiques, de ses traditions et engagements particuliers ou collectifs, ou collégiaux, considérant que chaque individu qui pratique une activité physique ou sportive adhère aux valeurs et prescrits qui régissent la vie pratique, qu'elle soit pratiquée comme loisir, en phase de préparation à une exhibition ou à une compétition sportive, considérant que ces valeurs sont notamment celles de fair play, de camaraderie, d'esprit d'équipe, de goût à l'effort, de solidarité, de respect des adversaires, des arbitres et officiels, des coachs, des entraîneurs, des éducateurs et des supporters, considérant que tout excès dans la pratique et l'organisation du sport doit être banni, tel que le dopage, précisant qu'est assimilé aux pratiquants du sport et de l'activité physique tout individu impliqué dans l'encadrement et la gestion du sport, tels les maires et pères, entraîneurs, coachs, animateurs, éducateurs, moniteurs, dirigeants, supporters, médecins, soigneurs, physiothérapeutes, prenant en compte que le pratiquant du sport et de l'activité physique reconnaît librement des règlements édictés et acceptés par les communautés sportives, lesquels respectent et complètent des règles supérieures que sont les traités, directives, lois, décrets, ordonnances, régissant les relations entre les citoyens, acceptant comme un fait largement démontré que le sport et l'activité physique pratiquée en société peuvent se pratiquer dans des lieux multiples que sont les stades, les terrains de quartier, les piscines, les vélodromes, les complexes multisports et tous les locaux faisant partie intégrante de l'environnement de la pratique sportive, tels que vestiaires, lieux de rassemblement, cafétéria ou lieux de rencontre au sein du complexe sportif, sachant que ces lieux de sport peuvent prendre d'autres formes permanentes ou temporaires, telles que les aires de sport de proximité, les parcours balisés, les épreuves itinérantes, parcours de marathon, de triathlon, de duathlon, qui est une liste bien entendu non exhaustive, tellement il y a des sports qui émergent aujourd'hui, et que ces lieux de sport sont complétés de leurs infrastructures spécifiques pour l'accueil des pratiquants, acceptant que la très grande majorité des lieux de sport ou d'activités physiques se trouvent dans l'espace public, voire même qu'ils appartiennent aux collectivités publiques et sont par définition ouverts à tous. Pour l'ensemble de ces motifs, et c'est ce paragraphe-là qui était celui qui était l'aboutissement de ces travaux que nous avons menés pendant plusieurs mois, et plusieurs mois avec chacune des confessions du mouvement sportif, pour l'ensemble de ces motifs, alors que chaque pratiquant est riche de ses valeurs propres, philosophie de vie ou d'appartenance, lorsqu'elle participe aux activités objet de la présente déclaration, il accepte, dès qu'il franchit les portes ou entre dans l'espace sport, sans aucune exception, pendant l'exercice de sa pratique, à faire sienne de se conformer aux règles du sport au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit. Ces dernières phrases ont bien entendu été celles qui ont le plus été commentées, et effectivement, nous y avons ajouté des dimensions de démonstration ostentatoire, voire intolérante. Et de ce texte-là, effectivement, chacun des participants représentant les différentes philosophies religieuses ainsi que les mouvements sportifs ont signé cette déclaration. J'ose avouer que quand nous avons entamé les travaux, nous n'avions pas, je n'ose pas dire l'espoir, parce que effectivement je ne serai pas là ce soir, mais nous ne pensions pas que effectivement nous arriverions à aboutir à ce qu'il y ait finalement une symbiose entre tous les acteurs pour faire en sorte que cette déclaration voit le jour et surtout qu'elle soit effectivement répercutée d'abord à travers chacun des cultes et puis à travers chacun des mouvements sportifs organisés, donc exemple par le comité olympique et l'ensemble de ses fédérations ou les différentes interfédérales du sport. Donc nous en avons fait un texte concis, concret et pratique pour tous. Et nous avons mis en place un certain nombre de programmes d'action qui devenaient une référence pour que, tout à la fois au niveau belge d'abord, j'allais dire, vous savez qu'en Belgique, nous avons cette chance d'avoir 3 communautés, 3 régions, 1 État fédéral, heureusement au sein de l'Europe, de faire en sorte que cette déclaration soit finalement reprise par la plupart des États européens. Et nous avons été les premiers surpris de la force de cette déclaration par l'ensemble des soutiens que nous avons reçus, à commencer en Belgique par celui de Sa Majesté le Roi. Mais vous allez voir, les signataires sont des signataires qui, chacun à leur niveau, chaque fois était bien sûr un engagement qui était pris par la plus haute autorité, donc dans ce cas-ci, le président du CIO, le président du Mouvement européen du Fair Play, du Comité international pour le fair play, du Panathéon international, du Parlement européen, du Conseil européen, de la Commission européenne, du Comité européen des régions, et au plan européen, il y avait 41 comités olympiques nationaux qui ont signé cette déclaration, en dehors d'autres institutions sportives européennes et bien entendu de l'ensemble des acteurs belges. Donc nous nous trouvions en présence donc, d'une déclaration avec en même temps cette force et la faiblesse de faire en sorte que nous puissions également rendre compte de sa portée et de sa force. Et nous avons à ce moment-là décidé, dans les années 2019 et 2020, de mettre en place un organe permanent qui puisse effectivement être le réceptacle des problèmes évidemment, qui pouvaient se rencontrer dans les fédérations sportives ou au contraire émanant des acteurs de terrain. Et nous avons pris l'initiative de créer le Sport Consilium, donc une sorte de comité de suivi, si vous voulez, pour vous formuler un avis sur l'ensemble des questions qui seraient posées, et je vous parlais toujours de symbolique, nous avons décidé de faire l'ensemble de ces réunions au sein du Comité olympique et interfédéral belge pour être sûr que, en même temps, nous étions, pour le monde du sport en tout cas, dans le lieu où se retrouvent systématiquement l'ensemble des instances sportives, qu'elles soient belges ou internationales. Et donc, après 4 ans de travail, le 6 octobre 2020, précisément, et vous verrez dans quel contexte nous étions à l'époque, vous constatez que cette photo, mais on est tous masqués, c'était en plein Covid, et il faut se le rappeler parce que ça ne faisait que retarder parfois certains processus de décision et d'accompagnement de projet. Et donc finalement, nous avons mis en place Sport Consilium. Alors, je voulais peut-être profiter de cette occasion pour vous faire écouter 2-3 déclarations de personnalités qui représentaient certains cultes. Et je voudrais commencer par la plus haute autorité de l'Église anglicane. C'est un choix tout à fait subjectif que j'ai fait. Vous retrouvez toutes les vidéos sur le site sportconcilium.be. Et maintenant, je me tourne vers... Donc, quatre exemples pris, non pas au hasard, mais simplement, vous retrouvez sur le site sportconcilium.be l'ensemble des déclarations et des engagements, et bien entendu, de l'Église catholique de Belgique, cela va de soi, ainsi que le monde sportif. Mais nous trouvions que l'on était assez loin dans le projet, malgré tout, et nous avons eu l'intention, après ça, de faire en sorte que l'ensemble du monde du sport, les pratiquants eux-mêmes, à travers différentes personnalités, puissent prendre la parole et puissent valider ou critiquer ou modifier ou adapter ces déclarations. Et c'est ainsi qu'en 2021, le 23 juin, nous avons organisé un webinaire hyper important dans lequel nous avons eu plusieurs centaines de participants. C'était aussi déjà une période encore un peu particulière, comme vous le savez. Et l'ensemble de ces orateurs ont finalement, au bout du compte, validé non seulement la déclaration, mais également, et peut-être surtout, le règlement qui mettait en œuvre le Sport Consilium pour le conseil que nous avions effectivement mis en place. C'est un règlement qui, bien entendu, parle de la genèse du projet, qui parle des missions de Sport Consilium, des modalités de saisine du Sport Consilium, puisqu'il s'agissait d'un organe à caractère assez juridique, et puis ensuite, dans ce même document, il y avait la composition très équilibrée, avec notamment un représentant de chacun des cultes de laïcité du monde sportif. Donc, je dirais que, d'une certaine façon, le kit était complet. Nous avions en même temps eu ce travail de fond, ce travail qui nous a permis d'arriver à ces quelques lignes qui étaient à ce point bouleversantes qu'ils en étaient devenus quasi le thème majeur, le slogan, le développeur du projet. Et je le rappelle, surtout, bien entendu, cette fin de déclaration où le sportif et l'ensemble des participants déclarent, pendant l'exercice de sa pratique, de faire sienne et de se conformer aux règles du sport au sens le plus large, sans mettre en exergue ses convictions philosophiques, de façon ostentatoire et intolérante, de quelque manière que ce soit. Donc, vous avez en fait un organe qui aujourd'hui existe, dans lequel les projets, ou en tout cas les remarques émanent du monde du sport lorsqu'il y a des situations qui demandent l'arbitrage de Sport Consilium. Ce projet est un projet qui va devenir un projet concret, qui va être, entre guillemets, non pas imposé, mais proposé via 2 organes en Belgique qui sont hyper importants, qui est Sport Vlaanderen, qui est en fait l'administration du sport flamand, et l'administration des sports du côté francophone, pour faire en sorte que ça devienne maintenant un peu l'élément majeur, et pas sinon l'élément majeur, l'élément rassembleur autour de cette thématique qui est particulièrement délicate et compliquée. Enfin, la raison pour laquelle aussi je suis heureux d'être ici, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, même si le CIO a signé la déclaration, même si le mouvement européen du fair play a signé le mouvement, même si des fédérations sportives aussi le mouvement et 41 comités olympiques nationaux, force est de constater que ce projet n'est pas pris en main dans les autres pays. Quand je dis n'est pas pris en main, c'est que malgré le fait que tout existe, mais personne ne se l'approprie réellement. Donc nous avons demandé à la nouvelle présidente du CIO d'en faire un de ses chevaux de bataille, ce qu'elle nous a promis en tout cas d'étudier, avant bien sûr de faire en sorte que ça devienne un élément qualitatif pour sa nouvelle politique. Et je dis aussi effectivement qu'avec l'ensemble de ces éléments dont nous avons parlé aujourd'hui, mais clairement, nous avons l'occasion de faire œuvre utile, un peu comme Philippe Gonigan m'expliquait tout à l'heure avec l'expérience merveilleuse des Jeux de Paris en 2022, de faire en sorte que, effectivement, l'ensemble des convictions philosophiques de chacun des athlètes rapproche et non pas divise, et fasse en sorte que ça devienne effectivement un moment supplémentaire à l'esprit du sport, donc à l'esprit de l'humanité. Voilà, je vais m'arrêter à cette petite présentation-ci, en étant à votre disposition, bien entendu, et comme ça vous avez les outils, ou en tout cas les réflexions qui ont été les nôtres, qui ont amené à cette déclaration. Vous avez, si vous le souhaitez en sortant, il y a et des déclarations et l'ensemble des minutes des colloques que nous avons menés et qui donnent la quintessence de ce projet. Et quand vous allez sur le site sportconcilium.be, eh bien, vous avez effectivement l'ensemble des documents que vous pouvez télécharger et faire, les faire vôtres, puisqu'ils sont ouverts à la grande majorité, et tant mieux si ça se propage. Je vous remercie de votre attention, et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous m'avez demandé de tenir dans le temps d'une mi-temps de rugby, c'est 40 minutes, donc c'est 40 minutes, une mi-temps de rugby. Donc voilà, les 40 minutes, donc c'est l'heure de la pause, de la rondelle de citron à l'époque, ou d'orange, et maintenant je suis à votre disposition, bien entendu. Merci de votre écoute.
Voilà, merci Philippe pour cette présentation. Donc effectivement, on va passer aux questions, donc s'il y a des personnes...
Oui, Brice.
J'ai une question. Est-ce que, si j'ai bien compris, on laisse dans la vestiaire ses convictions et on va seulement suivre les règles du sport? Est-ce que ça implique aussi que tous les signes de leur conviction restent aussi... on ne peut pas les montrer sur le terrain?
La première question piège, je pourrais dire que d'un Belge. Ok, bon, donc finalement, vous avez eu tort d'aviser des Belges. Non, mais merci pour cette question, c'est effectivement pour tous les gens qui suivent le sport, comme j'imagine chacun d'entre vous de temps en temps, on ne peut pas aller à l'encontre effectivement d'un réflexe classique que les joueurs, comment dirais-je, font notamment en montant sur un terrain de sport, que ce soit des athlètes, etc. Mais je rappelle une chose, c'est qu'on parle bien de manière ostentatoire ou intolérante. Ces deux mots ont été l'essence même de la déclaration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une grande différence entre ce que qu'on vient d'évoquer et que votre question appelle comme réponse, et le fait à un moment donné de ne pas vouloir serrer la main de son adversaire parce qu'on a terminé un combat, qu'on est sorti vainqueur ou pas, que l'on décide de ne pas participer à une épreuve. Et vous savez que dans des compétitions, notamment à Rio, il y a des judokas qui ont refusé de participer, notamment des combattants ou des judokas iraniens, parce qu'ils devaient affronter un athlète d'Israël, etc. Donc il y a eu plusieurs cas, j'en parle parce qu'ils ont été flagrants et repris par la grande presse, donc ce n'est pas du tout évoqué ici quelque chose, je ne parlerai pas des 40 dont j'avais la connaissance qui n'iraient pas au jeu de Rio. Mais donc, tant qu'on n'est pas dans l'ostentatoire, qui en même temps démontre une forme d'intolérance, évidemment qu'on peut bien sûr avoir toutes ces convictions ancrées en soi, à un point tel qu'effectivement, on puisse se dire, souvenez-vous de la fameuse main de Maradona, où il avait parlé de la main de Dieu. On lui laissera cette déclaration, bien entendu. Enfin, il ne pourrait plus la faire maintenant. Ces deux adjectifs sont essentiels. Ça répond à votre question?
Oui, monseigneur.
Oui, monseigneur.
Est-ce que des tatouages religieux sont ostentatoires ou pas? Je dis ça parce que Olivier Giroud, qui est un athlète français, chrétien, évangélique, donc a une phrase psaume, et le dos, c'est une croix. Je l'ai vu ici à Metz, quand il y avait Luxembourg contre la France avant le mondial et de match préparatoire à Saint-Denis. Il était devant, il allait rentrer sur le terrain, donc on avait enlevé et mettre un maillot, et on a vu, là, il y a une croix tatouée. Alors je me dis, est-ce qu'un athlète qui aurait un tatouage de ce type, on va dire c'est ostentatoire. Donc il faut savoir ce que signifie la croix.
Bon, alors de nouveau même chose comme réponse, pas même réponse bien entendu, mais on souhaite effectivement qu'Horace Giroud de pouvoir régulièrement enlever son maillot qui est la tradition des footballeurs quand ils marquent un goal. Et encore, je crois que ici, il sait que ce n'est pas vraiment, il apporte un signe, cela va de soi, mais ça ne va pas influencer son comportement avec ses adversaires, incontestablement. Quand on parle de la phrase dont vous parlez, effectivement, cette phrase-là, il faut encore qu'il y ait un close-up en télévision qui soit tel qu'on puisse la lire aussi. Donc il y a dans ce fait-là un engagement de l'athlète, et c'est parce que, si je veux dire, vous avez eu la chance de le voir torse nu, ou en tout cas dos nu, que vous avez vu Hervé Ducroix, mais ce jour-là, il n'a peut-être pas marqué de goal, et je ne crois pas que ce soit des sportifs qui enlèvent son maillot quand il fait un goal. Mais donc, non. La question que vous posez, et je la note pour notre conseil, c'est quid d'un nageur, quid de tout sportif qui effectivement pratique son sport et qui est naturellement, je dirais, ou torse nu, etc. etc. C'est effectivement un cas qu'on ne nous a jamais présenté. Et je vous remercie donc non seulement d'avoir posé la question et de vous dire que je n'ai pas la réponse. En tout cas, à ce point spécifique. Merci d'avoir posé la question, donc j'ai bien fait de venir aussi.
Est-ce que les tatouages se développent beaucoup aujourd'hui?
C'est un business. Oui. Je n'en ai pas. Je ne peux pas vous en montrer. je ne vais pas enlever ma chemise pour vous montrer. Je n'en ai pas. Mais c'est effectivement un sujet auquel nous n'avons jamais été confrontés. Merci de votre question.
Une autre question? Oui, Nicolas.
J'ai compris que vous reprocher quelque part à l'Église de France de ne pas s'être assez saisi de cette opportunité-là. Donc, comment est-ce que vous verriez la façon dont ça pourrait s'enclencher?
Alors, non, je n'ai pas fait de reproches.
Des regrets.
Mais les regrets, on en a un peu tout le temps. Alors, le premier regret que je pourrais d'abord formuler, c'est celui que, quand nous avons reçu assez bien de moyens publics pour pouvoir mener toute cette action, c'est-à-dire en engagement du personnel, etc., etc., parce que tout le monde y croyait. Et puis à un moment donné, c'est comme pour tout, quand nous sommes arrivés à la déclaration et au Sport Concilium, on a considéré que nous avions fait l'essentiel du chemin. Or, c'était le début du chemin, c'était le chemin de la diffusion. Vous l'avez entendu à travers les quelques témoignages, c'est la même chose dans tous les témoignages des autres interlocuteurs qui étaient les nôtres dans le monde du sport et dans le monde des cultes, eh bien, ils ont chacun joué en partie leur rôle, vraiment. Alors, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir, c'est vraiment du top-down, hein, c'est-à-dire de partir systématiquement, je dirais, de la direction d'un culte et de vérifier que c'était bien passé également dans l'ensemble de leurs clubs, dans les clubs où ils avaient une majorité d'athlètes qui étaient de leur conviction philosophique, de vérifier que c'était bien arrivé jusqu'à eux, et nous n'avons pas eu les ressources, objectivement, pour vérifier cela, tant au niveau, je dirais, des cultes, mais de la laïcité, que même au niveau des fédérations sportives. Et c'est la raison pour laquelle, et je l'ai évoqué quasi en clôturant ma brève présentation, que nous avons maintenant demandé aux administrations des sports. Alors, pour Dieu, pour deux raisons. Première raison, parce que les administrations des sports, ben, ce sont elles qui croient les subsides. Ça n'a l'air de rien, mais c'est vachement important. Et donc, si à un moment donné, on dit, tiens, nous voudrions que ce document-ci devienne un document qui soit signé par chacune des fédérations sportives subsidiées, qui elles-mêmes reversent des moyens financiers au club, et que ça se trouve, à un moment donné, c'est un peu notre objectif, dans les statuts des différentes fédérations et des différents clubs, d'avoir simplement cet alinéa, nous serions comblés. Donc il n'y a pas de reproche, c'est de dire simplement, quand j'ai dit le kit existe, le kit est là, tout est là. Donc, et comme nous sommes, je dirais, forcément, quand on prend une démarche comme celle-là, mais c'est pour qu'elle soit ouverte à tout le monde, c'est que si demain l'Église de France veut se saisir de l'ensemble du projet, tous les outils sont à sa disposition. Notre expertise est à sa disposition. Si elle veut le mettre en œuvre, nous sommes présents pour donner, s'il faut, sinon un coup de pouce, ou en tout cas les quelques règles que nous avons respectées. On peut même le faire en néerlandais, je ne sais pas si ça va vous intéresser. Mais bon, donc ce n'est pas un reproche, c'est de dire, je profite de l'occasion, c'était le dernier slide, de dire en France, mais oui, ce serait exceptionnel, parce que c'est en même temps le pays qui a connu les derniers Jeux, c'est le pays de Coubertin, qu'on le veuille ou non, c'est, je dirais que la philosophie sportive est beaucoup partie de ses écrits, et donc je me dis que je crois que rebooster l'ensemble du projet, si ça pouvait repartir de France, ce serait extraordinaire. Donc il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de carte jaune ni de carte rouge.
Je suis pas belge.
Une autre question, et Laurence.
Merci pour votre présentation. Une autre question sur le caractère ostentatoire aussi. La question brûlante sur l'actualité en France, sur le port du poil dans les compétitions, y compris départementales. Si vous deviez vous saisir de cette question du port du poil pour des jeunes sportives, donc est-ce que vous considérez que c'est un signe ostentatoire? Et la deuxième question qui est liée, c'est la responsabilité des médias à montrer. Et le caractère ostentatoire peut ne pas dépendre du sportif, mais de l'image qui est portée sur le sportif lui-même, qui lui-même pourrait être discret dans un coin de. C'est une question qui m'a déjà interpellé, intéressé. Et donc, je voulais avoir votre avis sur cette question.
Alors, nous sommes tous partis, soi-disant, de l'Europe. Et donc, normalement, on pourrait se dire, tiens, que nos législations sont les mêmes en France ou en Belgique. En Belgique, dans la fonction publique, et c'est en général un des éléments que l'on retient, c'est que tant que la personne n'est pas en rapport avec le public, elle peut porter notamment le voile pour faire court. Dans le domaine du sport, pour l'instant, ça ne s'est pas encore posé, puisque l'espace est public et que donc c'est au vu et au su de tout le monde. Donc en principe, aujourd'hui, en Belgique, on devrait, les organes sportifs devraient interdire cela. Alors, dans certains cas de figure, bien entendu, et c'est, je crois que c'est habituel de la gent humaine, c'est de tenter le sort. Et donc, on sait que dans certains clubs de football féminin en Belgique, il y a ce problème qui se pose, et les arbitres n'osent pas réagir, et les clubs non plus. Alors, c'est là aussi qu'à un moment donné, nous sommes malgré tout liés à la législation, et faire en sorte que nous pouvons nous substituer à l'organisation sportive elle-même, nous ne pouvons pas nous substituer aux arbitres qui n'appliquent pas la règle, et on ne peut pas se substituer à la loi qui a été décrétée et qui est pourtant mise à mal. On peut simplement le constater. Nous l'avons fait, et je le dis clairement, pour deux clubs de football féminin à Bruxelles, où deux ou trois sportifs portaient le voile pendant leur match. Nous avons eu un problème quasi similaire en beach volley, avec un ce qu'ils appellent le burkini ou un truc, c'est ça. On a eu un cas, et là, effectivement, la Fédération de volleyball, par contre, elle a expliqué qu'il n'était pas question que l'équipe participe au championnat de Belgique de beach volleyball, alors que pourtant, aux Jeux olympiques, ils ont pu participer. Donc, ici, il y a, si il n'y a pas de reproche tout à l'heure par rapport à ce que monsieur posait comme question, ici, on peut regretter qu'il n'y ait pas une règle au minimum européenne qui existe et que tout le monde fait sienne. Et que le CIO, dans ce cas-ci, c'est lui qui devrait être le premier à agir et l'imposer à ses fédérations. Mais nous savons en plus que dans le domaine du sport, il y a une grande différence entre les fédérations dites encore amateurs, même si elles sont gérées de façon professionnelle, et le sport professionnel. La réponse à votre question, c'est lié à la législation. Il y a des contraventions par rapport à ce qui est édicté par le législateur, puisque j'ai dit clairement en Belgique, les personnes en rapport avec le public ne peuvent pas porter ces signes dans les administrations publiques, ce qui est en général la règle pour nous. Je sais que ce n'est pas satisfaisant, mais voilà.
Je reviens sur le côté ostentatoire. C'est naturellement un dossier extrêmement compliqué, très très compliqué, hyper délicat. La Belgique n'est peut-être pas la France, mais en tout cas, en France, on a connu ce débat sur ce caractère ostentatoire au niveau des écoles, et concrètement, au bout du compte, où est la ligne du ostentatoire, ce qui est ostentatoire, ce qui n'est pas ostentatoire. Est-ce que porter un petit logo comme ça, c'est ostentatoire ou pas? Les débats vont se suivre. Et finalement, au bout du compte, conduisent à quoi? C'est disparition du signe religieux, de tout signe religieux. Ça commence par ostentatoire, et à l'arrivée, c'est l'exclusion du religieux. Est-ce que c'est normal que je rentre dans un vestiaire, je suis chrétien, je vais sur un terrain de foot, que quelque part le message qu'on me fasse passer, c'est que ma religion, elle n'a pas à voir là-dedans. Ça me met très mal à l'aise, cette dimension-là, et je suis conscient que c'est hyper compliqué, mais est-ce qu'on va se dire que l'univers religieux, de par la diversité des religions, de par le fait qu'il faut éviter des provocations, des conflits, on simplifie, on exclut le religieux. C'est en France, il y a un petit peu ce qu'on fait avec ce qu'on cherche à faire dans certains domaines avec la laïcité, en s'imaginant que parce qu'on exclut Dieu des écoles publiques, tout ça, ça règle les problèmes. Ce qui n'est pas vrai. J'ai conscience que c'est hyper compliqué.
Mais c'est la raison pour laquelle ces deux mots s'y trouvent. Je disais tout à l'heure, clairement, on insiste régulièrement quand un joueur marque un but, quand un joueur monte sur le terrain, etc., etc. J'irai même plus loin. Vous savez que simplement le port du turban par les Indiens est aussi un signe qui est lié à leur religion hindouiste. Donc, clairement, ça fait partie un peu, je dirais, des petites traditions, mais qui ne mettent pas en péril, je dirais, la pratique du sport, qui ne met pas en péril la relation à l'autre, qui ne rend pas inconfortable l'adversaire par rapport à son opposant, il ne rend pas mal à l'aise le sportif d'une même équipe. Effectivement, on ne peut pas exclure non plus le fait que quelqu'un, à un moment donné, ait une conviction tellement ancrée en lui qu'il le montre avec toute la dignité, tout le respect qu'il doit au fait qu'il n'est pas dans son lieu de culte, il est dans un lieu public et qu'il a malgré tout envie pour lui-même de l'exprimer. Pour autant, de nouveau, je ne reprends pas l'histoire du tatouage, mais effectivement, ce genre de démonstration, moi, ne me dérange pas. Ce qui me dérange, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand, à un moment donné, il y a des règles différentes entre celles édictées par le législateur et la façon dont c'est répercuté au niveau du sport. Et que ça met, effectivement, dans certaines équipes, les gens mal à l'aise. Je vais prendre un exemple sans citer, bien sûr, l'origine. Ce sont, en Belgique, on a dû réglementer, ce n'était pas légiféré, dans une fédération bien précise, parce que les entraîneurs de religion musulmane interrompaient l'entraînement pour la prière. Là, c'était clairement quelque chose qui n'allait pas avec la règle du sport. Et donc, ces entraîneurs ont été priés de se conformer simplement à la pratique classique de leur sport. Si lui voulait s'exiler un moment pendant quelques minutes, libre à lui, c'était exactement ce que nous avons prôné à ce moment-là et qui était suivi. Mais c'est une matière éminemment délicate, et ces deux mots, ostentatoire et intolérant, ce sont les mots sur lesquels il y a eu le plus de débat avec l'ensemble des représentants des cultes et de la laïcité, et pas du tout pour pouvoir, à un moment donné, créer un incident entre eux, non, mais pour mettre une limite où vous dites très justement qu'il y a des interprétations. À la limite, il faudrait qu'à un moment donné, le monde du sport d'abord se saisisse des mots et mettre des frontières.
Oui, j'aurais voulu revenir en amont aussi à l'importance de l'éducation sportive chez les enfants. J'étais entraîneur de judo pendant des années, donc avec des enfants. Aujourd'hui, enfin depuis quelques années, on constate quand même que l'importance de l'activité physique, je ne parle pas d'un sportif professionnel, c'est peut-être un cas différent, mais il y a certainement, je pense aussi dans une pastorale du sport et au sein du CIO, même si ce n'est pas sa vocation première, d'éduquer aussi à des espaces accessibles, parce que au moins en France, tous les lieux ne sont pas dotés quand même d'infrastructures sportives. Je pense à certains lieux dans le rural, parce que c'est une question de santé publique. Et je pense que c'est une question de santé autant physique que spirituelle, quelle que soit la religion, et même ceux qui n'en ont pas. J'aurais voulu votre avis là-dessus, et peut-être l'expérience en Belgique qui est peut-être différente.
Il n'y a pas eu d'expérience en Belgique. Je crois que c'est une expérience en tant que quelqu'un qui vit le sport. Et vous êtes dans un sport où, au contraire, je trouve que les règles sont tellement bien délictées. Je trouve que c'est un des sports où le respect de l'adversaire, ou le respect de l'arbitre, ou le respect de l'entraîneur sont inculqués au plus jeune âge. Je dirais que presque tous les sports de combat, j'exclus la boxe ici, dans ce cas-ci, mais tous les sports de combat, il y a ces règles-là qui font partie d'un processus éducationnel. Et beaucoup de parents inscrivent leurs enfants dans des clubs dits de sport de combat pour ces raisons-là, avant qu'ils ne bifurquent vers un sport éventuellement collectif ou individuel, etc., et changent de niveau. Vous ajoutez un deuxième élément qui me semble important, c'est qu'une des choses que nous avions prônées, et là, on va directement se rendre compte de la complexité infrastructurelle, c'est de dire que si l'on faisait comme au jeu, par exemple, que dans chacune des grandes infrastructures sportives, il y ait des lieux de culte, des lieux de recueillement. Vous l'avez dans les aéroports, vous l'avez dans des gares, vous l'avez dans d'autres lieux. Pourquoi pas, à un moment donné, effectivement, là aussi, dire il y a un espace dans lequel... Il y a ça maintenant, ces fameuses salles extraordinaires dans les unités de soins palliatifs pour le recueillement, qu'on soit laïque ou croyant. Cette dimension-là, on ne peut pas la nier, et le monde du sport devrait s'en saisir pour dire, mais voilà, nous donnons la preuve tout à la fois de l'ouverture en dédiant un lieu, modeste peut-être, mais à ce que quelqu'un puisse se recueillir autrement que son collègue, que son copain.
Et on a ça au Groupama Stadium à Lyon, où il y a une salle de prière pour les différentes religions qui a été inaugurée dans le nouveau stade.
Ça, c'est l'idéal. Enfin, je veux dire, dans les projets, et ça, c'est finalement une démarche qui peut être vraiment facile, même dans une commune de peu d'habitants. Il n'y a pas d'équivoque, il y a toujours moyen d'aménager les lieux. Et c'est en même temps, comment dirais-je, une belle communication vers tous les citoyens. Monseigneur, vous avez encore une question?
Moi, je vais poser une question comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la réflexion que l'on essaie de mener et qui dit le sport unifie la personne dans toutes ses dimensions et de faire quelque chose de particulier pour cette dimension religieuse ou philosophique. D'ailleurs, j'ai une sous-question. Comment identifie-t-on des signes d'une certaine philosophie qui ne devrait pas s'exprimer? Puisqu'il y a aussi ces questions philosophiques. Elles peuvent quelquefois s'exprimer de manière moins visible ou plus subtile, ou parce que c'est une pensée de la société d'aujourd'hui. Alors, je dis ça, cette question de l'unité, parce que on s'aperçoit, et ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, après la mort de l'assassinat de Kirsten Kricket, et du côté de jeunes, on voit que, on voit aussi chez nous, hein, avec les catéchumènes, la dimension religieuse, redécouverte, devient fondamentale et unifiant finalement la manière de vivre, très concrètement. Elle n'est pas qu'une idée, elle n'est pas qu'une pensée, elle est plus que cela, avec des signes. Alors, il y a ça qui se développe, il y a notre idée d'unifier, puis on dit, oui, mais il ne faut pas que cette dimension-là soit trop présente. Et là, est-ce qu'il n'y aura pas un jeu des tensions, si on dira, il ne suffira pas de mettre des lieux cultes pour que je puisse les faire,
mais... Merci de votre question aussi. Je pense qu'il faut prendre, si j'ose dire, le problème à l'envers. Ouais. C'est de se dire, est-ce qu'on est d'accord que le sport d'abord est rassembleur au travers de l'activité? Est-ce qu'on est d'accord de dire que la relation entre équipes, le fair play, le respect, etc., sont essentiels? Je pense que là, on peut, quel que soit le résultat finalement. Ainsi, j'ajoute la dimension que, non pas que vous suggérez, mais le danger que vous pouvez vous appréhender, ce serait de se dire, à un moment donné, on laisse finalement tout le monde s'exprimer en fonction de sa conviction religieuse dans tous les aires de sport. On se rend bien compte qu'on risque d'arriver à une, je dirais, à des moments où le sport ne primera plus sur l'activité elle-même, sur la manière de respecter l'autre, peut-être dans certaines circonstances. Donc je crois que je préfère très largement dire que on est d'accord sur toutes les valeurs que le sport représente, et on est d'accord aussi que, tout en ayant sa propre culture, sa propre conviction, mais qu'on sache que cela doit se faire dans une certaine forme de, et de dignité et de discrétion. Je n'imagine pas un mot, moi pour l'instant, hein, bien entendu, ou brusquement, suivant, quand on prend le père anglican qui expliquait Manchester City, Preston, Southampton et compagnie, on imagine difficilement que brusquement toute l'équipe monte sur le terrain avec l'ensemble des transférés, et qu'ils, comment dirais-je, se mettent au service d'une religion, parce qu'à la base, c'est au plan paroissial que le club a été créé. On l'imagine difficilement. Donc je crois que probablement que, comme d'habitude, vous savez que j'ai toujours dit que la seule arme redoutable des Belges, c'était le compromis à la Belge. Peut-être bien que cette phrase est typiquement liée à notre culture, qui fait qu'effectivement, on doit à un moment donné, vous allez l'exprimer par écrit, parce que l'important de l'écrit, mais qu'à partir de là, on doit pouvoir soi-même déterminer le cadre de l'ostentatoire, même si je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'on est parfois démunis, et encore plus démunis si justement le législateur n'a pas aidé en la matière. Ça, c'est très différent.
Oui, Laurence.
Est-ce que ce cadre de la déclaration interdit toute constitution d'une fédération sportive qui serait d'obédience religieuse, vu que je ne crois pas qu'en Belgique, les fédérations catholiques, par exemple, ont été...
Évidemment. Non, au aucunement. Aucunement, parce que prenons l'exemple, si vous connaissez un peu la Belgique, la FRSEL, la Fédération Royale du Sport de l'Enseignement Libre, c'est une association, dans le bon sens du terme, redoutable. Elle est vraiment bien implantée. Mais c'est la règle du sport qui prime sur le terrain de sport, même si effectivement, à la base, ce n'est que la rencontre de l'ensemble des établissements d'enseignement libre. Enfin, en Belgique, l'enseignement libre, c'est l'enseignement catholique pour être précis. Donc non, vous avez tout un temps, vous aviez des ligues ouvrières en Belgique qui étaient clairement, généralement athées ou plutôt athées, prenons ce terme-là, mais ça n'empiétait jamais sur la règle du sport, une fois que j'étais sur le terrain de sport. Donc non, ça n'empêche rien. Ça n'empêche pas ça en tout cas. Vous y voyez un inconvénient ?
La Fédération Royale Catholique Belge, oui, n'existe plus. De gymnastique.
De gymnastique ? Vous avez tout. En fait, on parlait du législateur. Le législateur a imposé que pour obtenir des subsides, c'est aussi horrible que ça, il fallait qu'il n'y ait qu'une seule fédération, une sorte de coupole. Et donc, ça n'a pas toujours été sans mal, notamment en gymnastique, pour faire en sorte que finalement tout le monde se retrouve de façon équilibrée dans un conseil d'administration, pour pouvoir. Donc, ils ont mis, si vous me permettez, ils ont mis les subsides avant l'indépendance de leur association. Alors, on peut là aussi le regretter, mais nous savons comme nous que. Dans le monde entier, il y a 2,4 milliards de sportifs, entre guillemets, assurés. Donc c'est vrai qu'on sait qu'il y en a autant, puisqu'ils payent une prime d'assurance. Et dans ce monde-là, si vous dépassez 20 000 sportifs largement rémunérés, c'est le bout du monde. Donc on est vraiment 2,4 milliards par rapport à 20 000. Pour tous les autres, c'est la course subside ou l'organisation pour proverber des subsides. Et en Belgique, on a eu ce débat dans beaucoup de cas, y compris pour, dans le domaine de l'enseignement, la réunion des différentes fédérations sportives de l'enseignement qui ont dû fusionner dans un truc dont j'ai toujours trouvé que, je dirais, le raccourci était exceptionnel. J'ai dit que c'était les fondements, je dirais, de l'enseignement belgique, et ça s'appelle la FES. La FES, donc la Fédération francophone des sports scolaires. Donc j'ai dit, écoutez, franchement, entre deux clubs en Belgique, qu'on crée un organe qui s'appelle la FES et qui, effectivement, réunit tout le monde. Donc, mais donc, ça a été une obligation. Et alors, il y a une tournante, tous les deux ans, c'est un président d'une des trois fédérations d'une autre obédience qui a la présidente et qui imprime le rythme qui est celui de son conseil d'administration. Donc le travail chez nous a été fait, je dirais, à cause ou grâce au subside. Ce n'est pas le cas en France.
Ouais. Hein. Sandrine.
Oui, une question, il n'a rien à voir. Une des plus grandes polémiques ces dernières années relatives aux convictions religieuses des athlètes a été sur l'obligation du port du brassard. Ma question est, est-ce que la déclaration répond à cette problématique-là ? Et si oui, dans quel sens ? Est-ce que c'est plutôt l'obligation de tel signe, du port dans tel signe, le refus de certains adresses européennes ?
Alors, de nouveau, la réponse, qui n'est pas une réponse de Normand, puisque je suis belge, c'est qu'en Belgique, on a décrété que certains week-ends étaient des week-ends où, effectivement, il y avait une attention particulière portée à cette problématique, où tous les capitaines d'équipe portaient le brassard, ou que le drapeau de piquet de corner portait l'arc-en-ciel. Donc, on a, plutôt que de dire tout peut s'exprimer à tout moment, on a dit, bon, ben, je vais dire un peu comme les gens du patrimoine, hein, mais on a dit, certains week-ends sont consacrés effectivement aussi à la défense. Et là, la fédération joue totalement le jeu.
Après la question, c'est de dire, là, est-ce qu'on n'est pas dans une démarche philosophique qui impose ses valeurs à tout le monde ?
Est-ce que la déclaration, finalement,
ne comprend pas ça ? C'est-à-dire que la défense des droits LGBT est imposée à tout le monde. Donc on est dans une imposition, est-ce que ce n'est pas une imposition ostentatoire par rapport à une philosophie ?
La pose ordinatoire, ce serait que ça s'exprime sur les jeux.
Ben si, quand on est obligé, par exemple, sur un week-end, de porter ce brassard, si on n'est pas d'accord avec cette...
C'est laissé à l'appréciation de tout le monde. Hein. Donc en fait, c'est une règle. Ce week-end-là, c'est autorisé. Mais ce ne sont d'ailleurs que les capitaines. Et dans certains cas de figure, vous avez raison, les capitaines changent à cette occasion-là.
Alors en France, nous, c'est... Ça a été des démarches qui ont été rendues obligatoires. C'est-à-dire que les capitaines ou même tous les joueurs étaient obligés. Et ce qui fait qu'il y a certains joueurs qui ont décidé de ne pas jouer ce jour-là parce qu'on leur a imposé, c'est ça. Voilà, c'est pour ça qu'on posait cette question-là. Enfin, je dis en France, mais peut-être dans d'autres pays.
Donc on ne connaît pas ce système-là, mais effectivement, c'est de nouveau, voilà une très bonne raison pour laquelle la déclaration pourrait devenir un élément... De bonne politique en France, en tout cas un bon départ pour traiter ce genre de choses. Mais je vous donne simplement la réponse belgo-belge, qui n'est même pas une réponse des fédérations internationales.
Une autre question ? Oui.
Moi j'ai une autre question par rapport au thème de la violence au monde du sport. Comment ça se fait ? Je sais pas, quel est votre regard ? Comment se fait-il que le club de sport ne soit plus un espace sacré ? La violence, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de signes, manque de compréhension du message du maître qui n'arrive plus à transmettre des valeurs de respect? Comment se fait-il? Là, on écrit une jolie règle, mais c'est un constat, il y a une violence qui augmente du sport, des supporters, des fois c'est les entraîneurs qui se battent, des fois c'est bon, etc. Est-ce que c'est parce que, finalement, ces signes qu'on veut enlever créent une sorte de vide qui laisse l'espace à ce manque de respect?
La violence dans le sport ou autour des terrains, c'est quand même l'apanage en grande majorité d'un seul sport qui commence par F. Comme ça, personne ne va pas donner le nom. Mais clairement, c'est l'endroit où probablement se stigmatise non pas, je dirais, l'amour d'un sport, mais justement le reflet de la société, plus que de l'amour d'une équipe, etc. Je ne vais pas dire que je me souviens, mais aujourd'hui j'en ai encore l'esprit d'appartenance, puisque chaque année, pendant 2-3 fois par an, l'équipe peut totalement changer. 2-3 fois par an, l'entraîneur peut être viré. Et les supporters peuvent être plus ou moins agressifs par rapport à une vision de l'arbitre ou pour un autre fait de société. Donc la violence, moi je la constate finalement que surtout dans ce sport-là. Et toutes les campagnes qui sont menées, et ça maintenant c'est l'UEFA également, les vers les armes pour l'aide et la protection et le respect des arbitres et des entraîneurs. Ce sont les deux vecteurs essentiels. Nous avons aussi à côté de ça un projet qu'on a mené et qu'on mène toujours, qui s'appelle Parents Fair Play, qui est un projet qui permet dans chacun des clubs sportifs à tous les niveaux d'avoir des parents qui, à un moment donné, sont chargés non pas de faire l'ordre autour du terrain, mais qui sont chargés d'essayer d'empêcher qu'il y ait un geste dans les tribunes ou entre supporters. Et ça peut se traduire par d'abord la réunion des deux équipes au centre du terrain, disant notamment la déclaration sur le fair play. Ça peut être par une minute, en l'honneur du fair play en démarrant le match, ce soit en faisant en sorte d'accueillir les groupes de supporters avec chaque fois représentant, puisque vous savez que dans le foot en particulier, il y a des regroupements de clubs de supporters, en reconnaissant à l'un un devoir, le devoir de, entre guillemets, contrôler aussi ces troubles. On n'enlèvera jamais, malheureusement, la violence inhérente à certains groupuscules, que ce soit dans le sport, que ce soit dans des manifestations. Mais donc, de nouveau, l'éducation prime partout. Le premier mot, c'est celui-là.
On a épuisé les questions. C'est très intéressant, ça permet de, voilà, d'aborder. Et puis, on vous a fait quelques suggestions de travail.
Tout à fait.
Vous allez repartir avec du travail.
Merci beaucoup. C'est le but du jeu, hein.
Oui.
Sinon, il n'y a pas de débat.
Oui. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Donc, en remerciant Philippe
pour
sa présentation. Avec plaisir.